voudrais vous raconter l'histoire de l'action, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui aime regarder le monde, observer les gens, s'attarder sur leurs sourires, leurs gestes, leurs silences. Il aime cette position, un peu en retrait, se recule. Il se dit parfois qu'elle est là, sa vraie place. Il y a quelque chose en lui du grec ancien, du sage qui sait que la vie contemplative est la plus élevée de toutes les vies. L'action à côté de cette belle immobilité, fait figure de vaine agitation. Pourquoi se bouger quand Parménide l'Ancien définit l'absolu comme l'un immobile et éternel? Pourquoi y aller finalement? À quoi bon se lancer? Et pourquoi maintenant et pas demain? Et pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi prendre place en plein cœur de la scène quand on a tout le loisir bien en retrait de l'observer avec lucidité? Tant de choses sont possibles, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas se contenter de ce possible, de contempler cet infini champ du possible avec un sourire amusé? Et puis un jour, tout change. C'est un ami qui lui dit « Viens, on y va. Viens, on le fait. » Ah bon, t'es sûr? Avec moi, t'es sûr? Pourquoi moi? Parce que c'est comme ça. Allez, viens, on y va. Alors, c'est la confiance qui vient. Il ne la trouve pas en lui, il la trouve au dehors de lui, il la trouve en son ami, il la trouve en l'autre. Et il s'y met. Il ne connaît pas cette phrase géniale du philosophe Alain. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Il ne la connaît pas, mais il est d'accord avec elle. Il découvre le plaisir de faire. Le sage contemplatif devient homme d'action, le grec ancien, un poète d'aujourd'hui. Il comprend que sa prétendue sagesse n'était peut-être que le cache-sexe d'un complexe d'imposteur. Il aime ça, non pas contempler, émerveiller l'infini des possibles, mais regarder ébloui un peu de ce possible devenir réalité. Mettre la main à la pâte. Ce qu'il contemple désormais émerveillé, c'est le pouvoir de l'action de dissiper l'angoisse. C'est parce que le comédien monte sur scène que son trac s'évapore. Ce n'est pas parce que son trac s'évapore qu'il monte sur scène. Ce n'est pas parce qu'il est prêt qu'il y va, c'est parce qu'il y va qu'il est prêt. Il se prenait pour un sage, il n'était qu'un fantôme. Il s'enroulait dans l'aquabon, c'est maintenant qu'il est bon. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Pas de surpréparer, pas de se vautrer dans mille questions, pas de s'excuser à l'avance du résultat, pas de s'interroger sans fin sur sa légitimité. Non, de s'y mettre. D'ouvrir une brèche dans le réel, un espace pour exister, de rencontrer ce réel, de rencontrer en même temps les autres, de se rencontrer soi-même. Pour en parler ce matin, des pouvoirs de l'action, ou plus simplement de ce que c'est que de s'y mettre. J'ai la joie de recevoir Gringe. Gringe, rappeur, comédien, écrivain également, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à réfléchir à cette belle question, comment on fait pour s'y mettre?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Gringe, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette étrange invitation, une heure de philosophie comme ça, le matin.
Ouais, mais ça me rappelle mes années lycée.
C'est un bon souvenir ou
C'est un drôle de souvenir. Je me rappelle d'un professeur en terminale qui était assez génial.
Prof de quoi?
Avec recul de philo.
Ouais.
Mais avec le recul. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était toujours un petit peu compliqué. J'étais et feignant et très dans la lune. Ouais. Et il avait un système de notation très très bizarre aussi. Il mettait des note approximative, entre, il y avait un barème entre 8 et 12.
Ah ouais, moi j'ai fait ça aussi.
Il faisait vachement ça.
En tant que prof de philo.
Donc je me doutais que j'étais pas très investi, quoi.
C'est une très belle idée de faire ça. Moi je me souviens, je faisais ça, je mettais genre une fourchette, je mettais 8, 14. Alors l'élève dit, mais je crois pas, j'ai 8 ou j'ai 14. Bah je dis, t'as entre les deux. Mmh. Et possiblement en puissance, c'est 14, mais c'est assez généreux de faire ça.
Pourquoi vous. Moi j'ai jamais posé la question de pourquoi il. Pourquoi il appliquait ce système de notation-là?
Ben, c'est pour montrer que c'est pas objectif, c'est pour montrer que ça dépend de plein de choses, c'est pour montrer qu'il y a un champ du possible inexploré.
Ouais.
C'est aussi pour montrer qu'on s'en fout un peu des notes,
ouais.
Que la philosophie, elle se joue ailleurs. D'ailleurs, moi, après, j'ai arrêté de noter un moment. Et c'est aussi un truc marrant que je faisais, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. C'est que je mettais une note qui était une note, par exemple, 8, et je mettais une note, genre 16, entourée.
Okay.
Alors l'élève dit, mais pourquoi? Ben, je dis, 16, c'est ce que tu vaux
c'est
en
que
vrai,
tu peux prétendre.
Mais
d'accord.
Là, ce que t'as fait, là, réellement, bah, c'est 8.
Mais c'est bien, c'est un peu plus précis, mais on n'avait pas trop d'explications, il nous fournissait ouais. Pas d'explications avec ça, quoi.
C'est quand vous étiez à Cergy, non?
C'était quand j'étais à Caen. D'accord. Non, c'est en arrivant à Caen, j'ai retapé ma première littéraire à Caen. Et l'année de ma première, quoi. Et je sais que c'était un prof assez génial, hein. Mais j'étais un petit peu, c'était de l'apprentissage, en vérité. J'ai compris que la philosophie, après coup, c'était des notions et que c'était, il y avait quand même, Ouais, c'est pas quelque chose. On est pas en, comment dire, en. C'est pas de l'impro, quoi. C'est pas vomir sur sa feuille tout ce qu'on pense.
Non, c'est vrai.
Si on avait mangé nos cervelles. Il y a vraiment un apprentissage et des philosophes et des.
Ouais. Alors justement, j'ai eu envie de vous inviter pour parler de plein de choses. On va parler bien sûr du livre sur votre frère schizophrène. En fait, sur votre belle relation à votre frère, plutôt que sur lui. Ce livre qui porte pour titre Ensemble, on aboie en silence aux éditions HarperCollins et qui est sorti en poche. On va en parler. On va parler aussi d'amitié, notamment de votre amitié avec Aurel San, mais plus fondamentalement, je voulais parler avec vous d'action et de ce que c'est que de s'y mettre, de trouver le moment où on sort comme ça de l'indétermination, on y va, quoi. Parce que dans votre parcours, vous apparaissez à plusieurs reprises comme celui qui n'y va pas. C'est ainsi que Aurel San se moque parfois de vous dans des chansons, c'est ainsi que vous apparaissez dans le documentaire du petit frère d'Aurel San, c'est aussi le rôle que vous avez joué dans la série Bloqué sur Canal, bah Bloqué au sens propre. Et puis, finalement, aujourd'hui, bah, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez été disque d'or avec L'Enfant Lune. Vous avez été au cinéma dans Les Chatouilles d'André Abesco, dans Carbone d'Olivier Marchal. Vous avez fait Les Casseurs Flotteurs. Vous avez plein de projets. Donc, au fond, vous avez réussi à y aller. Finalement, quel a été le déclic ?
C'est marrant parce que je tempère un peu. Je mets toujours du temps à y aller. Et là, par exemple, je suis dans une période transitoire où je sais pas comment y revenir. Et avec quelle envie et voilà, je m'interroge sur la place à laquelle j'ai envie d'être, là, l'endroit dans lequel j'ai envie d'être. Mais ce qui pousse à y aller, c'est, je parle pour moi, c'est avant tout, ça se passe dans le regard de l'autre. Effectivement, c'est ce que tu vous disiez tout à l'heure. C'est ce qui pousse à s'y mettre, c'est la confiance que peut nous accorder un pote qui lui s'y est mis depuis un moment. Il y a quelque chose, on endosse une espèce de responsabilité collective, une envie de pas décevoir son pote et puis soi-même aussi, on a envie de se hisser au moins un niveau, quoi.
Vous voulez dire d'être à la hauteur de la confiance qu'on met en vous.
Ouais, c'est ça. Donc c'est du boulot.
Je rappelle pour les auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire, que l'histoire est assez belle quand même, assez singulière. Donc vous êtes amis avec Aurel San, Skrell et les autres depuis longtemps, mais au début c'est sans vous que Aurel San a un incroyable succès avec Le Chant des Sirènes. Et puis, alors qu'il est, genre, je sais pas, numéro 1, que c'est un peu la révélation, eh ben, il vous demande, est-ce que tu veux faire un album un peu de pop qui va être Casseur Flotteur. Et là, c'est quand même très intéressant, c'est très singulier. Comment vous l'avez pris à ce moment-là?
Je lui ai dit qu'il était fou. Je lui ai dit, mais comment t'es en haut de la vague, comment tu peux prendre un tel risque? Connais un petit peu les impératifs de la musique, l'aspect business du truc, c'est de ne pas se faire oublier. Donc, sortir des projets de manière la plus récurrente possible. Et je lui dis, t'es vraiment sûr d'avoir envie de faire un album de potes maintenant, que tu viens de choper 2 victoires de la musique et il me dit, ouais, je pense qu'il se sentait un peu tari déjà. C'était une longue tournée. Et puis qu'il en avait envie, il avait envie de renouer avec la base, quoi. Faire du rap, raconter des conneries.
Les parents, ils me mettaient la pression, ils me disaient tout le temps, mais arrête de traîner. Par exemple, ils détestaient Grinch, tu vois. Ils me disaient tout le temps, ouais, c'est un peu un pique-assiette et tout. Je me rappelle, ils disaient ça, je lui disais, ça le faisait marrer.
Pourquoi de neuf, hein? C'est à ces temps-ci, je me néglige parce que j'habite chez ton frangin et je vis dans des conditions minables. Un petit peu précaires, mais on s'en sort.
Tu peux monter ta chambre, peut-être?
Tu peux faire le tour de mon plumard, si tu veux.
Toi, du propriétaire.
Voilà.
Un mètre carré.
Alors c'était un extrait du documentaire du petit frère d'Aurel San, et on voit cette figure de vous-même que j'évoquais au début. Si on revient à la question comment vous êtes sorti au fond de cet état, qui était aussi intéressant, de contempler, d'observer.
Ouais, il se fait dans la douleur. Enfin, j'étais pas dans un état léthargique, mais j'étais vraiment en décalage, quoi, en retrait. Je sais pas, l'implication se fait par étapes, petit à petit. Je pense qu'il y a eu une espèce d'état un peu torpeur duquel j'avais du mal à me sortir parce que je voulais pas correspondre à la norme, je voulais pas faire d'études, enfin de longues. J'avais pas d'idée, j'avais pas spécialement d'envie. J'avais cette idée un peu réductrice que le monde du boulot c'était la fin des libertés personnelles. Donc il y avait plein de trucs que je refusais de faire. Donc j'étais en retrait, très en observation. À un âge où mes potes se construisaient, quoi, qui étaient trouvaient leur premier boulot, se maquaient même en couple et commençaient à faire des. J'étais en décalage de tout.
Vous aviez une sorte de, comment on pourrait dire ça, mélancolie, distance, dépression, comment on peut
appeler ça? Ouais, bah, un état dépressif. Mais je sais pas comment le, encore aujourd'hui, je sais pas vraiment comment le nommer. Mais je suis, oui, quelqu'un de mélancolique, de profondément mélancolique. Mais c'est quelque chose qui me plaît. C'est aussi là-dedans que je vais puiser, je sais pas, mon inspiration, que, je sais pas, puis ça m'aide à, c'est un filtre qui m'aide à mettre de la nuance un petit peu dans tout.
Est-ce que j'ai vraiment envie d'elle, ou juste pour qu'elle puisse se sentir belle? Moi je la trouve pas si belle quand elle guette mes faits et gestes comme une sentinelle. Sur moi un cœur trop petit pour pouvoir contenir tout un amour triplexel qui tu manipules.
C'est comme ça que tu c'est vois.
Juste un pantin qui se désarticule au bout de leur string ficelle. Mes efforts pour te rassurer c'est jamais suffisant. Ouais mais jusqu'à quand hein? On s'est rencontrés c'était bien, mais ça c'était juste avant. Avant que j'entende des embrasse-moi comme si je te manquais. Et quand tu m'aimes je veux que tu le fasses comme si tu me détestais. Et quand t'en baises une autre qui on me fait le comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Eh hey, folle. Mais mon ex flippe, pourtant je me suis jamais dit qu'il fallait que je te quitte. Même le jour où je t'ai pris en flag avec ce type, je suis pas visionnaire mais je sais qu'il va pas se faire le fit. Parce que je comprends tes peurs irrationnelles, donc je te supporte. Mais déjà j'entends murmurer cette petite voix qui me chuchote.
Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît arrête ça. Laisse tomber, toi tu veux jouer avec moi. Je vais craquer, non s'il te plaît arrête ça. Et je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire. Si je reste à la regarder, jouer avec mes nerfs. Comme si j'étais bloqué entre ciel et terre. Je crois que je vais faire une OD, ouais si je la laisse faire.
Ok. Si on inversait les rôles, toi, est-ce que tu resterais là sans te défendre? Je sais, tu cherches à te reposer sur mon épaule, mais bon, tu tiens pas toi-même sur tes jambes. Ouais, et quoi? Je devrais changer pour te plaire? Ma faute si tu jouis dans les draps d'un autre? Les séances de flicage, ça devient glauque. Boule d'angoisse devient boule de nerf. Ta route secours ou ton mec, mes chéris, je serais pas les deux, non, non. Je crois bien que tous ces efforts en l'air ont fini par me rendre paresseux. Ça fait bien trop longtemps que j'espère. J'ai trop attendu et maintenant je suffoque. Ouais, je te demande pardon, mais je vais bientôt devoir faire taire cette petite voix qui me chuchote.
Tout bas.
C'est vrai que quand j'allais se faire, j'en prends un coup.
J'avoue.
Ma dignité, j'allais se taire. On n'est plus dans la même sphère. Pourtant, elle et moi, c'est pas ce qu'on espère. Et ça rend fou. Quand j'étais petit, on m'avait pas dit que l'amour, il mourrait avant nous.
Laisse tomber, toi, tu veux jouer avec moi.
Jouer avec toi.
Je vais craquer, non, s'il te plaît, arrête ça.
Non, j'arrête pas.
Laisse tomber, toi, tu veux jouer avec moi.
Jouer avec toi.
Je vais craquer, non, s'il te plaît, arrête ça.
Non, j'arrête pas.
Et je vais faire une OD, ouais, si je la laisse faire.
Jouer avec toi.
Si je reste à la regarder, jouer avec mes nerfs.
Jouer avec toi.
Comme si j'étais bloqué entre ciel et terre.
Jouer avec toi.
Je crois que je vais faire une OD, ouais, si je la laisse faire.
Jouer avec
Nous sommes toujours avec Gringe sur France Inter, sous le soleil de Platon. J'avais choisi cet extrait de votre album Enfant Lune, je la laisse faire, parce que je trouve qu'on entend cette mélancolie. On se dit aussi que ces années pendant lesquelles vous n'y êtes pas vraiment allé, elles ont peut-être nourri quelque chose aussi d'intéressant, qu'on entend après. Et finalement, ça vous donne une posture un peu détonnante dans un monde du rap un peu viril, enfin une forme de vulnérabilité qu'au fond vous assumez et qui est intéressante.
Ouais, mais je me pose pas vraiment la question, quoi. Là, c'est marrant, je réécoute ça faisait 4 ans, enfin c'est sorti il y a 4 ans, et c'est surtout j'entends quelque chose d'hyper naïf dans le dans le discours, dans le choix des mots, la manière de poser ma voix, c'est rigolo, mais
vous êtes passé à autre chose.
Ouais, mais c'était un laboratoire, c'était aussi une manière de me réapproprier un peu mon autonomie après les casseurs, et du coup c'est un petit peu bancal, c'est rigolo de réécouter ça, et du coup j'ai oublié votre question.
Voilà, non, ma question c'était, est-ce que la vulnérabilité est bien perçue dans le rap d'aujourd'hui?
Ah, il y a quelque chose que je trouve un petit peu risible. Après, tous les rappeurs ne sont pas des archétypes du mal alpha et binaire. Et quand je dis binaire, c'est intellectuellement. Il y a un truc auquel je correspond pas, qui me ressemble pas. Et voilà, mais c'est pas un milieu que je fréquente. J'ai des potes rappeurs, mais je pense que j'en rêvais quand j'avais 20 ans.
Ouais.
20 piges plus tard, c'est toujours une musique que une culture qui est la mienne, une musique que j'affectionne. Mais voilà, je m'en sers comme d'un moyen d'expression, l'écriture rap, pour faire bruit, c'est ça, pour bosser mes trucs.
Et vous avez aussi d'autres moyens d'expression, notamment l'écriture. Alors, je voudrais qu'on parle de ce beau livre sur votre relation à votre frère. Tout à l'heure, j'ai dit sur votre frère schizophrène, je crois que c'est une mauvaise façon de présenter les choses. D'abord, il n'est pas schizophrène, il est schizophrène au sens psychique, mais je pense pas que ça le définisse tout entier.
Non.
Et d'ailleurs, c'est ça que vous racontez, que la société, qu'on n'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est que la schizophrénie, que peut-être parfois on est, nous, plus fous que ceux qu'on appelle les fous.
Mmh.
Et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce très beau titre « Ensemble, on aboie en silence ».
Mais ça, il m'a été suggéré par un de mes éditeurs. Il y a deux maisons d'édition qui m'ont proposé ce projet d'écriture. C'est HarperCollins d'un côté, Wagram Livre de l'autre. Et chez Wagram Livre, Arnaud Le Guichet, qui est aussi auteur, et qui est un super auteur, au moment de devoir trouver un titre au bouquin, moi, j'ai des titres qui sont un petit peu, en périphérie de ce que raconte le bouquin. Et lui me dit, mais dans le chapitre que t'écris sur la relation de ton frère à son chien, qui s'appelle Peau de sable, il me dit, il y a cette phrase là, quand tu parles de, voilà, ton frère qui explique que quand c'est le bordel, ils partagent la même gamelle, et quand c'est le bordel, en gros, ils aboient tous les deux en silence. Et c'est vrai que d'un coup, je me dis que ça fait sens.
Ouais.
Puis à la fois, c'est très poétique, et je le trouve le titre très joli, quoi. Voilà,
Et puis il y a aussi l'idée que votre frère donc entend des voix, c'est une des manifestations de la schizophrénie. D'ailleurs, il y a des scènes très très touchantes où vous racontez que vous êtes avec lui, votre petit frère et votre mère devant la télé, et soudain il vous explique qu'il y a quelqu'un, une fille qui est là en train de lui parler. Et vous dites, mais en fait, c'est mon petit frère, quoi. Donc évidemment, je vois bien qu'il débloque un peu, mais en même temps, comme c'est mon petit frère, peut-être qu'il a un peu raison. Et d'ailleurs, il a un peu raison, parce que ces voix, elles ont une forme de réalité.
Mais complètement, c'est juste, avec le temps, prendre conscience que cette réalité-là existe pour lui, donc elle existe, de fait, quoi. Enfin, après, c'est presque tentant d'y adhérer, parce que c'est son frère, parce que on a son frère en face, et qu'on a envie de... Et puis, j'étais le seul aussi à être un peu dans la confidence, quoi. Je me trouvais un peu privilégié par rapport à ça. Et donc, j'étais tenté d'y croire, quoi. De me laisser séduire aussi par le... espèce de chant des sirènes, de ce qu'il entendait, ce qu'il voyait de l'imperceptible. J'étais tenté d'y croire.
Et surtout, ce qui est très, très beau dans votre livre, c'est que on comprend finalement que ce frère schizophrène n'est pas ce qu'on entend communément par fou, parce que justement, il apprend à vivre avec sa particularité, il apprend à vivre avec sa différence, il a un courage fou de... Alors imaginez, si vous nous expliquez... quand on vous parle, vous n'avez pas 50 voix en même temps. Bah, lui, il a ça, et en plus, il vous répond, il fait des efforts pour communiquer avec vous, pour être avec vous. Donc, il y a une déclaration presque d'amour à votre frère. D'ailleurs, vous dites, c'est lui mon meilleur ami, quelque part.
Ouais, parce que c'est le seul... Mais c'est marrant, généralement, les gens qui souffrent, ou les gens qui ont morflé, ou qui ont trop morflé... des gens qui sont dans l'empathie, qui savent ce que c'est que de souffrir. Donc mon frère, il a jamais été dans le jugement vis-à-vis de moi.
Oui.
À l'inverse, il m'a appris à relativiser sur mes petits bobos. Moi, de comprendre de mieux en mieux sa réalité, au point de me dire, c'est quand même fou qu'au bout de 15 ans, il soit toujours sur ses deux jambes, et combatif et volontaire. Je me dis combien... je sais pas si j'aurais eu sa force de résilience. Des gens comme... Les gens qui souffrent et en silence, qui plus est, ça fait relativiser sur ses propres errances et ses bobos et ses petits questionnements existentiels.
Dans le portrait indirect, évidemment, que j'avais fait de vous au début comme un sage ancien, un grec contemplatif, je me référais à cette dimension des sages grecs qui pensent que contempler c'est mieux qu'agir. Mais il y a autre chose que je trouve très intéressante dans votre cas, et peut-être c'est ce que votre frère vous a appris, c'est quelque chose d'un sceptique. C'est-à-dire le scepticisme, c'est une école qui vise, le terme technique c'est l'époquer, c'est-à-dire vers la suspension du jugement. À un moment, les choses sont là et on va pas juger, s'engager comme ça dans la conviction, l'a priori. On comprend qu'on pourrait dire ceci et argumenter, mais qu'on pourrait aussi dire ce, dire le contraire et argumenter. Et est-ce que finalement votre frère vous a pas appris ça, qu'on peut pas accepter sans juger?
Si, mais complètement. Mais ça me parle. C'est une pensée pour le coup qui me parle beaucoup, dans laquelle je me reconnais. Mais si, bien sûr, parce que. Apprendre à... Enfin, moi, j'étais quand même très très auto-centré, très égocentré. C'est marrant, mais le combat de mon frère m'a appris à m'ouvrir aux autres et moi à sortir de ma coquille et à relativiser. En vérité, il n'y a pas une vérité. On a à chacun la sienne. Je sais pas. Il y a même des artistes qui m'ont fait découvrir, Bachung, des Bukowski. Je me dis, mais en fait, la vérité se trouve... dans la suggestion, dans le pouvoir de la suggestion, quoi, des mots, chacun y plaque et chacun interprète à sa manière. Il n'y a pas une vérité, c'est pas vrai.
Ouais, et puis il y a autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à un moment vous dites voilà, on peut pas tout faire pour l'autre. Et ça aussi, il faut l'accepter. Ouais. Or, souvent, quand on aime quelqu'un, ça peut être son frère, son amoureuse, son mari, qui vous voulez, on voudrait l'aider, on voudrait le sauver, et c'est presque normal. Mais en fait, l'amour véritable, c'est peut-être de comprendre qu'on n'a pas tout pouvoir, en fait. Même si on l'aime, on peut pas tout pour l'autre.
Non, ça me paraît évident, moi, qui l'ai accompagné pendant 15 ans, évidemment. Mais il y a aussi, je viens d'ouvrir un tiroir. Le matin, ça m'arrive beaucoup. Ouais. Je viens de switcher ma pensée. C'est dommage.
Non, en tout cas, vous allez pouvoir y réfléchir pendant qu'on écoute la chanson que vous avez justement, qui porte le même titre que ce très beau livre que je recommande. C'est vraiment un livre d'apprentissage du scepticisme, de cette époquée, cette suspension du jugement qui n'interdit surtout pas l'amour.
Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Full feuille, une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir, la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des sales mômes toute la vie. Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation. Step backward sur nos parties de foot au City Stade la nuit. Tard le soir sur le parvis, on se repère au bruit du ballon. On défie le daron, l'ambiance est paramilitaire. Et puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver. Et quand je me noie dans mes larmes, que je mords le fruit du démon, c'est encore toi mon frère qui me ramasse à la petite cuillère. On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge. Et si les fous nous taxent de faux, dis-moi au fond, qu'est-ce qu'ils en savent? Celui qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer. Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel que t'abats en silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel on abat en silence. On abat en silence. Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour laver. Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à court d'abri, on aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute tes histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi, t'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent, faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du froid en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel que t'abats en silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel on abat en silence.
Silence. On a pas au silence.
prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel, fous le feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes, rien peut nous perturber, non ce soir la nuit est belle, on s'évade entre hibernation mentale et vie réelle.
C'était Gringe, ce très beau morceau, ce très beau single, on aboie en silence.
Sous le soleil de Platon.
Tout a cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars, mais on n'a rien de spécial, mon pote, on n'a rien.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Gringe, sous le soleil de Platon. Gringe, dont nous venons d'entendre ce très beau morceau qui porte le même titre que ce très beau livre sur votre relation à votre frère. Ensemble, on aboie en silence. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette maladie, la schizophrénie. Donc, elle a été déclenchée, a été révélée par une prise de drogue. C'est souvent le cas. Mais en fait, il y a des prédispositions qui étaient là.
Ouais.
Mais parfois, voilà, c'est en fumant ou en prenant un ecstasy, ça déclenche quelque chose.
Mmh.
Et finalement, cette différence, au début, vous vous sentez coupable parce que vous pensez aux conditions extérieures qui auraient pu déclencher ça, ce que vous appelez l'environnement dans le livre.
Ouais.
Et puis après, vous êtes un petit peu, on pourrait dire, entre guillemets, rassuré par ce que dit la science plus précisément de la schizophrénie.
Oui, que c'est c'est un facteur, elle dépend aussi de facteurs génétiques et pas seulement de facteurs d'environnement, quoi. C'est une espèce de roulette russe génétique qui frappe au hasard. Une faute de recopiage dans l'ADN.
Oui, c'est ça, ouais. Et alors, on voit bien dans le livre, et ça, c'est assez dur, assez violent, que la société, l'hôpital, on a vraiment du mal, quoi, avec ces malades-là.
Mmh.
Ils sont surtout gavés de calmants, sédatés, plus que vraiment.
Ouais, ça change à petit à petit, mais il y a 10 ans, 15 ans, c'était encore assez archaïque, ouais.
Ouais, et vous êtes le parrain donc d'une association qui s'appelle la Maison Perchée, dirigée par Maxime Pérez-Zitvogel
et Lucille Zola. Et pas que d'ailleurs, mais je vais pas tous les citer. Ouais.
Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que j'ai l'impression que là, il y a une voie de belles solutions.
Bah, c'est des jeunes gens qui sont, pour certains d'entre eux, ou bipolaires ou schizophrènes, et qui sont regroupés ensemble et qui ont créé une association qui s'appelle la Maison Perchée, qui propose à la fois des cellules de discussion l'urgence d'accueil pour les jeunes.
C'est une maison non médicalisée.
Alors c'est une maison non médicalisée et qui a pour vocation de rediriger, alors déjà d'accueillir dans l'urgence les jeunes gens en souffrance,
ouais,
qui savent pas trop vers qui se tourner. Lors de leur premier, je sais pas, épisode psychotique ou juste des gens qui s'interrogent, qui se posent des questions sur ces maladies mentales-là, et qui après réorientent vers les instituts adéquats, quoi.
Ouais.
C'est un peu le chaînon manquant, ce qui manquait, je trouve. En ayant parlé avec eux, entre la maison, par exemple, où peut se déclencher un premier épisode psychotique ou et l'HP. Il y a quand même tout un truc je pense que quelqu'un qui a 17, 20, 18, 20 balais, qui sait pas trop ce qui lui arrive, et il va trouver quelqu'un qui parlait le même langage, quoi.
Parce qu'en fait, le drame, ce qui se passe souvent, c'est que ces gens, ils font une crise, un épisode psychotique, parfois le premier, le deuxième, ils vont en HP,
ouais,
ils sont en gros sédatés, le pire est passé, et puis après on les balance dans la rue.
Exactement.
Et parfois ils sont pas accueillis, parfois leurs familles sont pas capables. Mmh. La Maison Perchée est une belle alternative.
Ouais, alors pour l'instant, je sais qu'ils sont en train de trouver un lieu de résidence sur Paris, mais voilà, c'est une Maison Perchée. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont décliné les différentes formes de discussion. Il y a les nids, il y a les perchoirs, ils proposent des ateliers aussi thérapeutiques. Je trouve ça beau, quoi.
C'est beau, et le titre est joli d'ailleurs. Enfin, le nom,
Maison Perchée. Ouais, ils ont décliné tout ça. Oui, c'est très joli tout ce qu'ils ont fait autour de ça, quoi.
Alors, je précise quand même que votre livre n'est pas un témoignage. C'est un livre, c'est littéraire. D'ailleurs, vous jouez sur la polyphonie. Il y a plusieurs voix, donc votre frère entend des voix, mais d'une certaine manière, vous aussi.
Ouais.
Et puis, d'une certaine manière, nous aussi, lecteurs, parfois, nous ne savons pas qui parle. Et c'est assez beau. J'ai été assez porté par ce texte, ce flow, la multiplicité des voix qui fait que peut-être... en fait, on est tous un peu comme ça. Hein. Ça nous arrive tous d'entendre des voix. Alors, effectivement, il ne faut pas penser que le psychotique, le schizophrène, c'est qu'une différence de degré, non, c'est une différence de nature.
Mmh.
Il y a quand même, je crois, une différence de nature entre la psychose et la névrose.
Ouais, complètement.
Mais malgré tout, le livre est touchant parce qu'on se dit quand même que nous aussi, on est un petit peu comme ça. Alors, je vais lire un extrait pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et qu'on voit qu'il s'agit aussi de littérature. Et puis, il y a les sorties de route médiatisées. Je mets tout le monde dans l'embarras, moi le premier. Ma nouvelle notoriété me propulse hors sol et très loin de la réalité que vit mon frère. Comment ne pas tout détruire? Partout j'existe, à la radio, sur les écrans, dans les discussions de mes proches et dans la rue. complimenté, admiré, sollicité. Comment mériter ces égards alors même que je suis incapable de venir en aide à Thibaut? Quelle imposture! Qui sait le frère que je suis et tout ce que je ne fais pas? En refusant qu'il se mette à son tour à vivre ma réussite par procuration ou simplement qu'elle ne le renvoie violemment à son inertie, je m'empresse de tout gâcher. M'interdis d'être heureux en sa présence, lui cache jusqu'à mes joies les plus bénignes. Sa voix que je suis convaincu d'asphyxier entraîne le rejet de la voix que j'emprunte. Et cette autodestruction programmée se répercute bientôt dans mon intimité. Le constat est cuisant. Une propension à m'isoler toujours plus grande, détériorer chacune de mes relations, me rendre coupable de ne pas être à sa place, chercher à transcender le choc jusqu'à la névrose. Me donner du retard dans tout pour que Thibaut n'ait jamais à le combler. Avoir bientôt 40 ans, ne pas être père, peut-être ne jamais vouloir le devenir, embrasser ma noirceur pour que ma lumière ne puisse lui faire de l'ombre. Et si Thibaut n'était pas tombé malade, est-ce que j'aurais su éviter tout cela? Le grand frère malade de son frère malade. Voilà ce que je suis devenu. Donc voilà, c'était un extrait de Ensemble, on a beau en silence, où on voit aussi tout ce que ça vous apprend, tout ce que ça vous révèle, et aussi comment finalement ça vous fait progresser finalement.
Ouais, et puis il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que tout ce que je refusais de dire ou montrer à mon frère par peur que ça le renvoie à sa propre inertie, comme j'explique dans le bouquin, c'est que je me suis rendu compte que l'inverse lui était bénéfique, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait m'arriver de positif, y compris moi, dans mes comportements, mon attitude, mon discours, c'était quelque chose de valorisant pour lui.
C'est fou, hein.
Je pensais tout l'inverse.
C'est incroyable comment on se trompe, en fait. On se trompe sur ce qui est bien, on se trompe sur les autres, on se trompe sur ce qu'est la différence, on se trompe sur ce qu'est la schizophrénie. Et du coup, la sagesse que j'évoquais au début de l'émission, c'est pas de comprendre, c'est au moins de comprendre qu'on s'est trompé.
Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce qui fait... c'est marrant, c'est la relation, je pense, en général. Hein, alors la relation, là, il s'agit de celle avec mon frère, mais elle me renseigne sur moi aussi beaucoup. La relation, je pense, en règle générale, nous enseigne sur nous, la relation amoureuse, d'amitié ou voilà, fraternelle. Je pense que ça renseigne beaucoup sur soi, quoi, une relation.
Et ça fait du bien de vous entendre parler de ça, de cette relation qui nous apprend qui on est. On l'a entendu au début à travers votre amitié pour Elsa Nusred. Là, c'est avec votre frère. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est très important de le souligner, parce qu'aujourd'hui, on nous dit le contraire. Mmh. On nous dit, voilà, si tu veux savoir qui tu es, rentre en toi, médite, mets-toi à l'écart du monde, fais de l'introspection.
Ouais, c'est dans l'œil de l'autre qu'on se découvre. Beaucoup.
Voilà. Et finalement, toute votre histoire, je voudrais pas non plus la caricaturer, la simplifier, mais c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui sort de lui, au fond. Mmh. Et parce qu'en lui, il y avait une forme de noirceur, en lui, il y avait quelque chose de mélancolique, puis à la limite, peu importe, ce qu'il y a un mois, à un moment, je vais sortir de moi, et dans la rencontre du monde, dans la rencontre des autres, devenir moi-même. En fait.
Mais les autres sont ma thérapie, je crois, parce que j'ai cette tendance un peu fâcheuse à tout transformer, à tout mentaliser, quoi. C'est très mental, c'est très intériorisé tout le temps. Donc c'est vrai qu'entre deux projets, ça peut être vertigineux pour moi. Je peux vraiment m'enfoncer dans les méandres de mon esprit et de sa noirceur et d'entretenir ce truc là. C'est toujours délicat, quoi, entre deux projets.
C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des corps dans mon paradis noir. Chaque fois je reviens de mes guerres sans jamais crier victoire, mais quelle est cette sombre lumière qui éclaire mon paradis noir.
Alors c'est un extrait de l'album Enfant Lune, hein, dont je rappelle qu'il a quand même été disque d'or. Paradis Noir, c'est quoi alors cette sombre lumière? Elle est claire quand même. Elle est claire.
Que des chansons qui donnent envie de se tailler les veines. Qu'est-ce que ça raconte Paradis Noir? Je sais pas. C'est un état d'esprit. Paradis Noir, il était presque en introduction de l'album, et c'était une espèce de synthèse de ma noirceur, de ma mélancolie, c'est de l'ego trip, hein. C'est pour parler vulgairement, c'est se masturber, c'est m'entendre parler, raconter, me vider la tête, quoi.
Alors attention, j'ai entendu votre remarque que des chansons qui donnent envie de se tirer de balle. Vous n'avez pas fait que ça. On va maintenant écouter quelque chose de plus, allez, de plus.
Les casseurs.
Ouais.
友情、音楽、馬鹿げた言動、二人の友人がラップのアルバムを完成させなければなりません。 懐かしい。友人たちの混迷参加でアルバムを作り上げた。オレさんとグリンジと一緒に一日を過ごしに来てください。男たちの冒険クサブロータスにようこそ。
イカスイフロートヤプーチョンスポキスオブリニベルイカスイフロートパッサンジュアベキューシュラテルイフォンダーミュージックエトレーノントレパテトレジョーデラスメンソレメコラージュTendresse, réflexion ne sont pas leurs plus grandes qualités.
One, two, three, four, power, power, let's go! Ah,
casa flota!
Alors voilà, on voit que vous êtes un peu capable d'autre chose que du soleil noir, de la mélancolie, pour reprendre ce vers de Nerval, je crois. C'est, à un moment, vous dites, leur spécialité, enfin, vous dites ça avec Orelsan, n'est pas de réfléchir. Ça nous ramène au thème de l'émission, quand même, qu'on avait un peu perdu de vue. Le thème, c'est l'action. Est-ce que vous croyez que une action est davantage réussie quand elle est bien anticipée ou quand elle est improvisée?
Ah, c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Je sais pas. Je pense que les deux cas de figure existent.
Ouais.
Très certainement.
Parce que quand vous avez fait de la scène, donc quand même, il y a un moment, vous avez fait des tournées de malade.
Ouais.
Au début, vous aviez très peur.
Ouais.
Et c'est quoi le moment où on se libère, en fait?
Bah, je crois que c'est justement de la libération, en tout cas, survient juste après d'avoir confronté. Il y a pas d'autre alternative. Faut confronter, c'est flip en fait. À un moment donné, et puis la scène a cette particularité qu'elle transporte, elle propulse en état second. Ce qui fait que les premières fois que je monte sur scène, et c'était pas au début, c'était des petites salles avec Aurel où je le baquais, quoi. Ouais. C'était déjà là aussi, c'était vertigineux, quoi. C'était juste le fait d'être en retrait. Me convenait tout juste, quoi. J'étais voilà. Mais je pense que la gymnastique, l'habitude, la répétition du phénomène fait qu'à un moment donné, on désacralise aussi un peu ça, puis qu'on y prend goût, quoi.
On prend goût à la lumière un petit peu quand même.
Ouais, 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 ah ouais, mais complètement. Mes premières années avec Casseur, c'est marrant parce que j'en parle avec. J'essaie d'en parler même pas avec recul, quoi. C'est de grands moments sur scène aussi, je pense. La tournée, c'est surtout ça qui permet de concrétiser ou de matérialiser un petit peu le boulot qu'on a fait en amont. Mais c'est aussi une espèce de surmédiatisation à un moment donné où il y a bloqué, où il y a le film, où il y a, et c'est ça déconnecte.
Mais finalement, vous l'avez bien vécu
aujourd'hui avec le recul.
Is up. They wanna tell us how to think and how to laugh and how to cry and how to move. Listen, give me a second, let me find a fuck. Poor George Floyd died on the floor and everyone saw. So now I sip Dom P because I can afford it. If they decide tonight that they all wanted to fight, then I'm the first guy that's standing in line for the war. War.
Society. Arms of control. Yeah. They think they're
C'était IBI Rise Above.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Gringe, rappeur, comédien, écrivain. Gringe, dont je recommande le livre Ensemble, on aboie en silence. Alors, je voudrais qu'on revienne au thème de l'émission. Action et procrastination. Mmh. Quand on se dit, ouais, je le ferai demain. Quand on se dit, peut-être, je suis pas complètement prêt. Quand on est perfectionniste, on dit, voilà, j'y vais pas maintenant parce que je serai meilleur demain. Finalement, on a peur de quoi?
Je crois qu'on a peur de son propre regard, de son propre jugement sur ce qu'on est capable de faire, et évidemment, fatalement celui de l'autre aussi, quoi. Mais c'est des moments déterminants, des moments clés dans un processus un processus de construction de sa personne en tant qu'artiste, de son art, quel qu'il soit, quoi. C'est des moments nécessaires. C'est un petit peu inévitable de devoir passer par là, quoi. Je pense.
Ouais. Mais quand même, ce qui pourrait aider les auditeurs, c'est de se dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent de procrastination, qui disent que c'est un enfer.
Ouais.
Et qui ont une sorte d'angoisse qui monte. Mmh. Et en fait, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le fait d'agir libère de l'angoisse, mais même quand on agit mal, même quand on agit qu'à moitié.
Ah ouais, complètement. Non, mais le fait de se mettre en mouvement, déjà, c'est peut-être un mouvement intellectuel, quoi. Et de faire, effectivement, on se leste d'une certaine forme d'angoisse, déjà, ouais.
Ouais. Alors, je vais vous poser une question un peu métaphysique. Pardonnez-moi, je mets ma casquette de prof de philo, mais vous savez, au début, j'ai dit, oui, le grec ancien, parce que il y a Parménide qui dit, la vérité, c'est l'immobilité. Sauf qu'en fait, il y avait un débat entre deux grands Grecs anciens qu'on appelle les présocratiques. D'un côté, Parménide, qui dit, Dieu, l'absolu, c'est l'immobilité éternelle. Mais de l'autre, il y avait Héraclite, qui dit, non, pas du tout, la vérité, c'est le mouvement. C'est le fleuve. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et finalement, c'est peut-être pour ça que ça nous fait du bien d'agir. Parce qu'en fait, on retrouve la vérité, quoi. La vérité du monde, la vérité de la vie, c'est peut-être le mouvement et pas l'immobilité.
Mais moi, j'ai tendance à penser que c'est un savant mélange, une savante combinaison des deux. On peut voyager immobile, quoi. Je fais ça pendant des heures encore, aujourd'hui.
Et mentalement.
Mentalement, ouais. Ouais, bien sûr. Mais peut-être à l'excès. Mais voilà, moi, je sais pas. Tout devient très obsessionnel très vite chez moi quand je m'intéresse à un sujet ou à quelqu'un, quoi. Et en même temps, la mise en mouvement, c'est oui, je pense que c'est le corps et l'esprit, quoi. Mais certainement que la mise en mouvement est quand même plus salutaire que toute une vie à observer.
Si on regarde les moments où ça remonte maintenant un petit peu, mais même si j'ai compris que ça revient parfois, où vous êtes, allez, on va dire bloqué, pour reprendre le titre de la série de Canal, quand vous êtes bloqué, c'est bloqué dans la jouissance, la jubilation, ou c'est bloqué dans l'angoisse?
Avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à me foutre un petit peu la paix aussi, donc c'est pas bloqué dans l'angoisse. Des fois, je vais chercher à recréer des moments justement en fumant, par exemple,
oui.
Espèce d'état de torpeur, c'est comme j'appelle, et qui vont pas être agréables à vivre, que je vais peut-être un peu subir, mais c'est des moments dans lesquels je vais aller puiser aussi.
Chercher en soi quelque chose pour le coup, ça
ouais,
c'est en soi.
Ouais, c'est ça. Et ça peut être, c'est pas seulement pour écrire, ça peut être simplement parce que cet état-là me procure du bien, paradoxalement, quoi.
Finalement, votre histoire, c'est un aller-retour entre plonger en soi.
Ouais.
Et
en permanence.
Parfois jusqu'au paradis noir, pour reprendre le titre de votre chanson. Et sortir de soi, monter sur scène, dans la lumière. Et puis quand même, finalement, vous faites plein de choses. Entre les livres, les concerts, le cinéma. On vous a même proposé, suite à votre rôle dans Carbone d'Olivier Marchal. D'ailleurs, je dis au passage que c'est assez marrant parce que vous êtes, vous avez quand même une figure, enfin vous parlez beaucoup de vulnérabilité, de tendresse, et puis là vous êtes dans un film très viriliste d'Olivier Marchal et vous donnez la réplique à Benoît Magimel, avec beaucoup de talent d'ailleurs je trouve, et suite à ça, Thierry Cliffat, vous avez comme proposé un rôle au théâtre face à Fanny Ardant, je crois.
Ouais, qui s'appelait le Crève-Cœur, je crois. Je sais pas, il m'a fait confiance, et c'est vrai que je lui ai dit, j'étais hyper emballé, Fanny Ardant, et puis Cliffat, quoi. Enfin, j'étais emballé par le projet, et c'était toute une année sur les planches, je crois, et au bout d'une semaine, je me suis ravisé, je lui ai dit que je me suis chié dessus, quoi, littéralement.
Mais il faut dire
j'ai
que
vu ma maman jouer au théâtre, moi, toute mon enfance, mon adolescence. Ouais, je comprends ce qu'est le théâtre, et être comédien de théâtre, c'est quand même quelque chose qui se travaille énormément, une gym qui se bosse énormément, et c'est être dans la vérité de l'instant, et devoir être dans l'instant, et dans la vérité de l'instant en permanence. on peut pas sonner faux, quoi. Ouais. Au cinéma, on commence.
Vous semblait que ça allait vous demander trop, en fait.
Ouais, puis là, on avait un temps de préparation, et je pense qu'il était très optimiste, et peut-être un peu trop. Je me sentais pas prêt.
Sans transition, je repense à un truc de votre livre Ensemble, on a boit en silence, mais c'est lié à ce que vous venez de dire. Quand vous dites le théâtre va me demander d'être trop présent, tout le temps présent, le soir, d'être à fond dedans, me revient que soudain vous avez dit « Oui, mais ce que m'a appris mon frère, ce que m'a appris la relation à mon frère schizophrène, c'est le sens de l'instant présent. »
Complètement incarner l'instant. Je ne sais faire que ça. Je suis incapable de me projeter encore aujourd'hui à mon âge. Je vois le décalage par rapport à mes potes. Je sais pas faire. J'ai pas cette notice là. Et en même temps, et c'est ce qui aussi, c'est très chronophage et ce qui me pompe énormément d'énergie, c'est que je suis dans une écoute hyperactive tout le temps et que quand je suis avec quelqu'un, je peux pas décrocher. Enfin, je suis vraiment dans l'instant et. Mais c'est, je sais pas, c'est comme ça que se définit la relation et la vie pour moi, quoi, c'est dans l'instant.
Moi je suis rascar capac et je t'attaque avec mon mac. La vie une chose frappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui veut très hâte, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémiens marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais.
Ouais, alors j'ai choisi Stupéflip parce que pour plein de raisons. D'abord parce que quand vous avez sorti Les Casseurs Flotteurs avec Orelsan, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Stupéflip. Cette espèce de pêche, de rage, d'humour, et puis c'est très écrit. Mais aussi parce qu'il dit à un moment qu'est-ce qu'il est devenu l'enfant. Qu'est-ce que tu lui dis à l'enfant en toi, ce qui est aussi un peu le sujet de votre livre avec votre frère.
Ouais.
Alors que je vous pose la question frontalement, qu'est-ce que vous en faites de l'enfant en vous?
Qu'est-ce que j'en fais de l'enfant? C'est marrant parce qu'il existe encore, hein. C'est la preuve. Je crois que je suis vraiment de mon entourage. Je suis celui qui adopte toujours. Je suis toujours dans un mode de vie très, très cure, très. Comment dire? Ouais, il y a un côté mature dans la manière d'aborder, d'agencer ma vie, de l'aborder, mais assumer. Et c'est une manière de pas taire cette part d'enfant qui existe encore en moi.
Il y a une anecdote concernant qui est assez marrante qu'on voit aussi, je crois, dans le docu ou dans le film Comment c'est loin, le film d'Orelsan et de Christophe, là. C'est quand vous êtes quitté par une nana. Et donc vous vous cassez au bout de la rue et vous restez un an dans une chambre de l'hôtel.
Ouais.
Ça c'est pas un peu l'enfant qui boude, ça.
Je sais pas si c'est l'enfant qui boude, je sais pas, mais c'est la fameuse mise en mouvement qui aura duré 50 mètres pour moi.
Voilà, une mise en mouvement.
Je me suis remis en mouvement jusqu'à l'hôtel Ibis au bout de la rue.
Merci beaucoup Gringe de nous avoir rejoints sur le soleil de Platon. En guise de remerciement, je vais essayer de faire ce que je fais chaque matin, de dégager la philosophie de la vie que nous avons entendue. Alors j'aurais envie de dire, c'est une philosophie à la fois engagée et désengagée. J'aurais envie de dire, il y a autant de vulnérabilité que de générosité. J'aurais envie de dire que vous êtes vraiment un disciple d'Alain. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre, même si parfois vous mettez un peu de temps. J'aurais envie de dire aussi que vous nous avez appris de façon très belle cette notion de scepticisme. Pourquoi il y a un moment, il faut arrêter de juger, il faut peut-être suspendre son jugement et accepter que les choses sont comme elles sont. Ça me rappelle d'ailleurs le refrain de votre chanson Déchirée avec Orelsan dans l'album Enfant Lune, où vous dites, voilà, faut pas chercher à comprendre, même moi, je ne me comprends pas.
Ouais.
Je crois qu'il y a là une belle sagesse. Merci beaucoup, Gringe,
merci
de nous avoir accompagnés ce matin. Cette émission a été préparée par Vera Louderie et Fabrice Riveau, à la réalisation Camille Mathy, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Félix Delacour. À demain matin.